Au XVIIIe siècle, le port maritime de Nantes fait figure de ville active dans le commerce triangulaire, avec de nombreux négociants, mais la ville se veut également partisane des idées révolutionnaires de 1789. Comment les Nantais vont donc réagir à la question de la traite des Noirs et de l'esclavage ?
Effectivement, Nantes est une des capitales, hein. C'est la capitale de la traite à l'échelle de la France. Nantes représente à peu près 42 à 43% des expéditions négrières recensées pour la France sur le XVIIIe siècle. Et effectivement, les négociants se retrouvent comme les acteurs majeurs de l'armement de ces navires. Simplement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que si des négociants peuvent être partisans des idées des Lumières, si des négociants peuvent se retrouver dans des loges maçonniques, ils distinguent complètement cette activité, je dirais, intellectuelle, de leur activité économique. Donc pour eux, et ça peut paraître paradoxal pour nous, citoyens du début du XXIe siècle, il n'y a pas d'opposition formelle entre le milieu des Lumières et la traite des Noirs. Alors bien sûr, parmi les partisans des Lumières, parmi les philosophes, on pense au chevalier de Jaucourt, qui a rédigé donc l'article « Traite négrière » dans l'encyclopédie, on dénonce la traite des Noirs. Mais la position du chevalier de Jaucourt n'est pas une position même majoritaire au sein du milieu et du courant éclairé.
D'où venaient principalement les esclaves nantais ?
Ces esclaves étaient essentiellement récupérés dans deux grands sites africains, deux grandes zones des côtes de l'Afrique. D'abord la côte de Guinée, avec la côte de l'or et la côte des esclaves, qui correspond aujourd'hui à l'actuel Bénin. Et également la côte d'Angola, qui ne correspond pas à l'actuel pays d'Angola, mais qui se situe un peu plus au nord, donc au sud du Cap Lopez.
Quelle population nantaise a notamment utilisé la pratique de l'esclavagisme ?
Les populations nantaises qui ont utilisé les pratiques esclavagistes, c'était des populations qui étaient amenées à participer de près ou de loin à ce commerce. La difficulté qu'on a, c'est que c'était quelque chose qui occupait une place très importante dans l'activité portuaire de Nantes. Peut-être pas forcément en volume, en tonnage, si vous voulez, mais simplement en valeur. Il y avait un effet très fort d'entraînement sur l'ensemble de l'activité portuaire. Donc, on a évidemment toutes les familles de négociants armateurs.
La bourgeoisie nantaise également.
Ceux que l'on pouvait considérer à cette époque-là comme les bourgeois de Nantes, c'est-à-dire les habitants du bourg, c'est-à-dire l'élite sociale de la cité nantaise, participaient à ce commerce. Mais on pourrait aller au-delà, c'est-à-dire que les capitaines de navires, les officiers et même les simples marins participaient à des degrés divers à ce commerce transatlantique, ce commerce de traite.
Quels sont les édifices nantais encore présents dans la ville qui résultent de cette période d'esclavagisme ?
Au XVIIIe siècle, Nantes connaît un formidable élan urbanistique. C'est le début de l'urbanisme. La ville change véritablement de physionomie. Cela est dû en bonne partie à l'essor du commerce transatlantique. On pense à la traite des Noirs, mais il faut également avoir à l'idée d'évoquer toutes les relations en droiture avec les colonies de plantation situées aux Antilles et principalement à Saint-Domingue, dans l'actuel Haïti, qui est vraiment la perle des Antilles pour les Nantais. Donc cet élan d'urbanisme se caractérise par la construction d'hôtels particuliers de négociants. On pense en particulier à l'île Feydeau, qui est construite au XVIIIe siècle.
Il y a également eu beaucoup d'hôtels luxueux quai de la Fosse.
Oui, bien sûr, les hôtels du quai de la Fosse constituent, pense à l'hôtel d'Urbé en particulier, pas très loin du Maillet-Brézé, qui sont des hôtels construits par des négociants. Et d'ailleurs, sur ces hôtels, les mascarons, les fameux mascarons, témoignent de ces liens qui existent entre Nantes et l'Afrique.
Durant cette période d'esclavagisme, pouvez-vous nous expliquer également ce que l'on va appeler les folies nantaises ?
Les folies nantaises sont des résidences qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de secondaires, c'est-à-dire que les négociants de Nantes, qui disposaient d'appartements dans leurs hôtels particuliers, se faisaient construire dans les environs de Nantes des résidences assez luxueuses, qu'on qualifierait aujourd'hui de villégiatures, pour y passer un peu de temps le week-end, entre guillemets.
Pour finir, le 4 février 1794, la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Mais alors pourquoi Nantes ne met-elle pas un terme à son activité négrière ?
Pour Nantes, on voit bien comment, et ce sont tous les travaux d'Olivier Pétré-Grenouillot sur le négoce nantais qui l'ont bien mis en place, il a insisté sur la culture économique des négociants nantais. Pour dire qu'en fait, globalement, Nantes ne met pas fin à la traite parce que les négociants nantais restent sur des schémas qui sont des schémas qui correspondent à la fin du XVIIIe siècle. Et encore, dans la première moitié du XIXe siècle, au moment de la traite qui est devenue illégale, les Nantais continuent à armer de manière assez importante à l'échelle du royaume des navires pour la traite illégale. Tout simplement parce qu'ils peinent à trouver des activités de substitution.
Il faudra donc attendre la loi du 27 avril 1848 pour que Nantes arrête totalement son activité de traite négrière ?
Il faut bien distinguer ce qui concerne la traite et l'esclavage. La traite est déclarée illégale à partir de 1817. À la suite du congrès de Vienne, les puissances qui sont vainqueurs de Napoléon imposent à la France l'abolition de la traite. La loi Schœlcher de 1848, c'est l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En l'occurrence, les Nantais continuent à pratiquer la traite illégale après l'interdiction de la traite des Noirs en 1817, jusque dans les années 1830. Ensuite, les résultats des campagnes étant mauvais, c'est plutôt pour une raison, si vous voulez, économique qu'humanitaire, que les négociants décident d'abandonner la traite.